d'écriture, émission animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonjour. Lieu d'écriture et de culture, tel est le thème de cette émission. Dans cette Côte d'Azur qui initialement allait de Gênes à Marseille, nous avons choisi trois lieux. Sanary-sur-Mer, dans le Var, dite, à juste titre, perle rare du Sud, Saorge, village merveilleux à la frontière franco-italienne, où il y a selon nous la plus belle des 19 résidences d'écrivains dans la région PACA, c'est l'ancien couvent des franciscains, et Cabris, la belle endormie dans le pays de Grasse. Nous avons invité les trois maires à participer à cette émission, deux, à Saorge, c'est une femme qui vient d'être choisie comme maire, et celui de Cabris se sont excusés pour des contraintes diverses. Pour cette émission, nous sommes allés sur le terrain. Deux entretiens à Sanary vont vous le montrer puisqu'il y a quelques bruits de fond et nous vous prions de nous en excuser. Dans la première partie, nous allons donc aller à Sanary, rencontrer le maire et le président de l'association Passion d'auteur. Je vous parlerai ultérieurement dans la première ou deuxième partie du livre Le meilleur des mondes de Huxley, étudié actuellement dans les lycées, et je l'espère aussi par les adultes qui nous entendent. Ce livre a été écrit à Sanary et je vous en citerai un passage. Et puis je vous raconterai une très belle histoire, celle de la librairie La Galerie à Sanary. Une histoire vraie, bien sûr. Dans la seconde partie, ça sera à Saorge, où nous aurons un entretien avec Estelle, puis à Cabris, où l'entretien se déroulera avec Christian, dessinateur humoriste, artiste connu de mieux en mieux dans la région et connu aussi désormais au Japon ou en Chine. D'ailleurs, il part en mai, comme chaque année, au Japon. Mais allons d'abord à Sanary-sur-Mer, écouter le maire. Monsieur le maire, bonjour.
Bonjour.
Alors, monsieur le maire, d'abord, je vous remercie de nous recevoir dans votre bureau à la mairie de Sanary-sur-Mer, autrefois Saint-Nazaire, je crois.
Absolument.
Vous avez été élu pour la première fois en 1989, si ma mémoire est bonne.
Tout à fait.
Et vous venez donc d'être élu brillamment. Vous avez déjà 25 ans de mandat et vous avez encore devant vous un nouveau mandat. Alors, j'ai envie de vous poser d'abord la première question. Quels sont ces projets pour votre nouveau mandat?
Vous savez, je crois que... Il y a énormément de projets, mais ce ne sont pas forcément des choses qui se voient. Ce qui me paraît important, c'est de faire en sorte, par exemple, qu'il y ait le moins d'enfants qui restent sur le bord du chemin, ou de citoyennes, tout simplement, qui restent sur le bord du chemin. Ce qui me paraît important, c'est que le vivre ensemble, ce ne soit pas des mots, ce soit une réalité, en tous les cas, une recherche permanente, c'est la remise en question. Voilà, ce sont des choses, c'est le, par exemple, le dépistage, la prévention. Voilà, ce sont des choses qui me tiennent à cœur. Ce sont pas forcément des projets qu'on va voir. Je pense que tout le monde est capable de construire une école ou de donner une route. Ce qui est passionnant dans le métier de maire, c'est de faire des choses qui sont pas forcément, je dirais, du domaine du visuel, de l'esthétique ou de l'urbanistique, etc.
Je vois, le vivre ensemble est très important.
Ah oui, ça me paraît essentiel. Et ce que je trouve dommage, c'est que pendant les périodes électorales, certains ont des comportements qui divisent trop la population, même qui créent des confrontations. Et il ne faut pas oublier qu'après, lorsqu'on est le maire de la commune, on a pour mission de favoriser la vie des hommes et des femmes de la commune, et de se vivre ensemble, et qu'il vaut mieux concevoir l'élection comme une compétition et pas comme la guerre.
Alors, vous avez un lieu tout simplement magique avec la mer proche, le port devant nous, etc. Il y a relativement peu, j'imagine, de structures nouvelles à envisager, peut-être la circulation.
Oui, on peut toujours travailler sur la circulation, mais on ne construira plus de maisons de retraite, il y en a 5, ni de crèche, il y en a 5, ni d'école, la dernière est en construction, ni la piscine est liée, ni la médiathèque, ni le théâtre, tout ça y est, les stades y sont, les gymnases y sont, donc tout est à peu près terminé aujourd'hui, mais il y a toujours quelque chose à faire dans une ville. Donc on fait même à la place de certains, puisque là on est en train de terminer la caserne des pompiers pour le service départemental d'incendie. Ensuite, on va attaquer le commissariat pour l'offrir au ministre de l'Intérieur. Et puis ensuite, on construira une poste parce que tous ces gens-là n'ont plus d'argent. Et que donc nous, on innove un petit peu, on arrive à faire beaucoup de choses sans pour autant fonctionner le contribuable de trop, puisque notre ville est l'une des moins imposées de France. Mais voilà, on essaye d'avancer pour que tout soit de qualité. C'est une démarche permanente. On est certifié à l'accueil, on est certifié à la sécurité, à la transparence des deniers publics. Donc tout ça génère des obligations. On a une quatrième fleur, c'est une obligation. On travaille sur le projet port propre, c'est aussi un ensemble d'obligations. L'agenda 21 est pour nous aussi un ensemble d'obligations. Et nous sommes en train de nous faire noter par l'agence internationale Fitch. Donc vous voyez que on est dans une recherche permanente de qualité, en tout cas de remise en question.
Alors, vous êtes une commune d'environ 16 000 habitants, je crois.
Absolument.
Qui l'était, arrive à combien d'habitants?
Bon, écoutez, j'ai un peu de mal à le savoir. Je pense que au plus fort, nous devons à peu près entre doubler et tripler la population, mais c'est difficile à trouver la mesure. On regarde un petit peu des données comme les parkings, les quantités d'ordures ménagères, etc. Mais c'est tout à fait vivable l'été. Il y a le mercredi à éviter, le mercredi matin parce qu'il y a le marché, et le soir parce qu'il y a énormément de monde qui vient sur le port de Salaï.
C'est vrai que le mercredi est un jour particulièrement festif. À mon avis, je l'ai vécu deux ou trois fois. C'est assez extraordinaire, non?
Ah oui, c'est sûr que si vous venez avec votre épouse, vous ne la faites plus partir de Salaï tant que le marché n'est pas terminé. Ça, c'est clair.
C'est pas sur le marché qui est gênant, c'est de retrouver sur un autre marché une autre épouse.
Oui, vous savez, un marais m'a dit, les femmes, c'est comme la marée. Ça revient toujours.
Ah, c'est joli. Je voudrais dire que parfois les hommes n'arrivent pas à renaître.
Non, mais je compléterai ce que je viens de vous dire parce que m'a dit Gérard Daboville, qui est un célèbre navigateur à rame, puisqu'il a traversé les deux océans, il m'a dit, oui, mais il y a quand même une grande différence. Il m'a dit, la marée, on sait à quelle heure elle revient.
Alors, comment faites-vous, monsieur le maire, pour arriver à cette espèce de climat culturel et festif qu'on trouve quasiment toute l'année à Salaï?
Écoutez, je règle mes comptes, entre guillemets, avec mon prof de philo de terminale, qui un jour a écrit sur mon livret scolaire « Élève sérieux mais réfractaire à la culture ». Tout simplement parce qu'il était en train de faire un cours sur je ne sais plus quel philosophe, et il parlait du beau. Et donc, à un moment donné, je l'ai interpellé en disant « Mais qu'est-ce que vous appelez beau ?» Et comme j'étais décidé à l'ennuyer, tout ce qu'il disait beau, je le trouvais pas beau, évidemment. Et donc, ça m'a valu cette annotation. Et donc, aujourd'hui, Salaï, le premier budget de la commune, c'est le budget de la culture. Et donc, j'en suis très fier. Et surtout, je suis très content qu'il puisse le constater, parce qu'il habite pas très loin d'ici. Il pense que je lui en veux, mais au contraire, non, j'en suis reconnaissant, parce que chez moi, ça a fait fonctionner des neurones qui n'auraient peut-être pas fonctionné autrement.
C'est intéressant, cette anecdote que vous indiquez, parce que souvent dans une vie, on réagit par rapport à un passé ou par rapport à une phrase qui nous provoque et qui nous met en marche.
Oui, je crois que il y a énormément de choses qui se produisent à partir de petits détails, quelquefois qui sont eux-mêmes déclencheurs. Vous savez, il y a les facteurs prédisposants et les facteurs déclenchants. Et effectivement, je devais être prédisposé à être maire et lui, il a déclenché le réflexe culture. Voilà, donc oui, j'en ai même avec un journaliste fait un petit livre d'anecdotes d'une partie de ces petites choses.
Alors, en attendant qu'à la fin de votre mandat, vous écriviez un best-seller sur le fait d'être maire, qui serait différent de Cauchemerle et qui nous montrerait une voie tout à fait passionnante, qu'est-ce que vous retenez comme impression forte dans votre profession de maire? Car c'est vraiment une profession.
Mais non, c'est pas une profession, c'est une passion. J'exerce ma profession tous les matins. Mais je pense que c'est une passion, c'est l'envie de faire les belles choses. Vous savez, quand vous êtes chez vous, vous avez envie que l'appartement soit propre, bien décoré, que le jardin soit harmonieux. Vous avez envie que vos enfants réussissent dans leurs études. Eh bien, en fait, quand vous êtes le maire de la commune, vous façonnez, entre guillemets, ce mot-là, pour pas que certains le prennent de façon péjorative, vous façonnez la ville comme vous essayez de façonner votre vie familiale. Et pour moi, ça, c'est la chose qui est la plus passionnante. Après, si vous voulez, il faut comprendre qu'une cité, c'est un ensemble. Alors, mon prof de maths va se retourner dans sa tombe. Je dirais qu'au sens mathématique, une ville, c'est un ensemble. Dans cet ensemble, il y a des sous-ensembles qui se chevauchent. Et je dirais que je dirais le rêve, c'est de faire en sorte qu'ils se chevauchent un maximum pour qu'on partage un maximum de choses entre nous. Mais ça se cultive facilement. Il faut, en toute chose, d'abord avoir une volonté et ensuite travailler. Et ça porte ses fruits. Moi, je trouve que je suis un maire privilégié.
Vous êtes un maire privilégié dans une commune que vous privilégiez et qui est mise en valeur. Comment voyez-vous l'avenir à horizon de, allez, 20 ou 30 ans pour une ville comme Sanary, qui inévitablement va être confrontée à son environnement, aux questions de communauté, d'agglomération, etc. Comment vous voyez Sanary entre Toulon et Marseille dans 30 ans ?
Écoutez, un jour, un président d'une grande communauté m'a dit « Tu finiras par demander à ce que ta ville vienne dans cette communauté. » Je lui ai dit « Non, tu n'as pas bien compris. C'est un jour toi qui demanderas à venir à Sanary. » Et je pense que au plus l'identité est forte, au meilleur sera la qualité de vie. Et au plus les hommes seront intelligents, mieux supporteront les communes. Vous voyez, ça fait beaucoup de choses qui font que on n'en prend pas trop le chemin. C'est un recul de la décentralisation auquel nous assistons. C'est une tentative de reprise du pouvoir par les Jacobins. Et donc l'histoire se répète assez souvent. Moi, je pense que, bon, là, on est dans un mouvement de balancier. Il faut attendre le retour du balancier tout doucement. Et je pense que dans moins de 30 ans, pour prendre le laps de temps que vous avez évoqué, on en sera venu à des choses beaucoup plus raisonnables, beaucoup moins coûteuses pour les contribuables et qui permettront aux gens de vivre paisiblement entre eux. Il y a assez de difficultés sans éloigner le pouvoir de décision de l'habitant, du contribuable ou de l'usager.
Voilà. Monsieur le maire, je vous remercie. Je dirais pour terminer que si la Bretagne a un petit village très connu grâce à Astérix, le Sud a une petite ville, Sanary-sur-Mer, où se joue le beau, la culture, le vivre ensemble. Vous le faites avec courage et ténacité. Et je n'oublie pas, vous le faites avec passion. Venez voir Sanary. Ça vaut bien le petit village de la Bretagne. Merci.
Oui, et si vous me permettez que je rajoute quelque chose, parce que c'est pas de moi, c'est un administré que j'ai croisé dans les rues de Sanary, il arrivait de la Seine, il m'a dit « Monsieur le maire, Sanary, c'est le paradis. Sauf que c'est mieux parce que nous sommes sûrs d'y être. Bienvenue au paradis à Sanary. »
Merci beaucoup. Voilà. L'entretien avec le maire, nous allons maintenant tout à l'heure entendre l'entretien avec le président de l'association Passion d'auteur. Je voudrais vous dire en attendant que Sanary a été la capitale culturelle de la capitale de la littérature allemande entre 1933 et 1945 et que Sanary a eu la croix de guerre entre 39 et 45 pour cette raison et pour une autre raison que vous ne savez peut-être pas, chers auditeurs, c'est que le commandant Cousteau y était et cachait un appareil que les Allemands cherchaient et pour tout cela, Sanary a eu la croix de guerre 39-49. Je rappelle que parmi les auteurs qui ont circulé à Sanary, il y en a eu un que vous avez au moins connu de nom, Bertolt Brecht, sur lequel il y aurait beaucoup à dire. Mais écoutons maintenant Monsieur Schiffre, le président de l'association Passion d'auteur. Nous avons la chance d'accueillir dans la mairie de Sanary, lors de notre passage dans cette merveilleuse ville, Monsieur Joe de Schiff, qui est le responsable de Passion d'auteur, qui est une association absolument surprenante et intéressante. Vous voulez nous en parler à la fois ? Qu'est-ce que vous recouvrez comme territoire ? Combien de personnes ça concerne ? Comment faites-vous ? Quelles sont vos activités ?
Alors, le but principal, c'est la promotion des auteurs qui ne sont pas édités ou qui sont très mal édités. Il y en a beaucoup. Donc, il y a des éditeurs qui ramassent des auteurs et qui restent. Les bouquins restent dans les armoires. Donc, nous, on offre à ces auteurs, qui, poètes, etc. On est ouvert à tout. On offre d'avoir la possibilité de se faire reconnaître au cours de nos rencontres que l'on fait. Alors on le fait des rencontres estivales autour des marchés des villes, hein, donc La Ciotat, Saint-Cyr, Sanary et Bandol. Et donc, on trouve la chance que l'on a, et on s'en sert d'ailleurs, c'est d'avoir le public déjà qui vient. On ramasse pas tout seul un public parce qu'il est vrai que ça n'attire pas grand monde les livres, à part les gens qui s'y intéressent. Et ce que l'on trouve passionnant finalement, c'est que il y a une émulation qui se fait au cours de quelques années de pratique, si vous voulez. On a appris à un petit peu à les faire motiver, à les faire parler, parce que l'auteur ça ne parle pas. ça reste dans son coin, il écrit. Et là, on arrive à les faire parler, à les faire rencontrer leur public, là, d'abord. Et puis, l'hiver, on organise des soirées littéraires, donc, avec, sur un thème donné, où ils sont pratiquement, on ne dit pas, pratiquement obligés de parler, et de parler soit de leur livre, soit d'un thème donné. Donc, et ça leur donne une assurance, disons, de...
Une reconnaissance.
Une reconnaissance d'abord, mmh. Et puis une assurance pour parler de leur bouquin.
Parce que c'est combien de personnes
Actuellement, on tourne aux alentours de 50, mais je pense que d'ici l'été, on va dépasser 60 ou 70 des fois. Alors, ce que on voudrait faire, enfin, que l'on fait, on s'impose d'ailleurs, nos carrés littéraires ne dépassent pas 30 personnes. Parce qu'il ne faut pas que ce soit un gros machin. Ouais. Et c'est convivial. Les gens viennent avec leurs épouses, avec leurs enfants, etc. Ça discute. Et 30 personnes, 30 livres, enfin plus, chacun a 2 ou 3 livres, c'est moins contraignant qu'une grosse foire aux livres où tout le monde passe sans oser d'ailleurs, sans oser s'approcher, et l'auteur sans oser approcher le lecteur potentiel.
C'est un lieu de rencontre extraordinaire parce que j'imagine dans ces auteurs, il y a des gens du terroir, il y a des gens qui viennent en vacances.
Tout à fait, tout à fait. Alors, les gens disent, oh, c'est la base, ils viennent l'hiver aussi. Par contre, on accueille une bonne dizaine d'auteurs qui viennent de toute la région, hein, de Paris, Grenoble, beaucoup de Grenoblois, de Valence, des gens qui viennent en vacances sur Sanary et qui s'accrochent à notre organisation, ce qui nous fait plaisir. Après, ça fait aussi un échange, hein, parce que eux, ça leur permet d'élargir leur lectorat, et nous, ça nous oblige à composer avec, et puis pas à composer, je sais, c'est pas le mot, mais je veux dire à avoir une autre vision de la littérature, parce que la littérature, les régionales, elle est méprisée d'ailleurs. C'est dommage.
Tout à fait, absolument. Mais je pense que les choses évoluent, et je pense que ça et là, on commence à reconnaître tout ce qui relève des productions culturelles dans un coin, les mettre en valeur. Bientôt, je pense qu'on les trouvera dans des lieux donnés, soit rattachés à l'Office du Tourisme, soit ailleurs. Et ce travail que vous faites sur le terrain, qui est au cœur des marchés, au cœur du quotidien, est à mon avis quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il y a une rencontre directe entre l'auteur, son œuvre et le lecteur.
Ce sont nos buts d'ailleurs, hein, de faciliter ces rencontres. Je crois que depuis qu'on a créé l'association avec Michel Thurier, qui est la cofondatrice de cette association, on a trouvé notre but qui se réalisait petit à petit, parce que les auteurs qui viennent une fois, ils sont un petit peu sur leur défensive, ils ont un petit peu peur de la foule aussi, et puis petit à petit ils s'investissent, et puis ils nous demandent, en plus c'est eux qui nous poussent maintenant.
Est-ce qu'une fois par an vous faites une activité festive à la fois de discussion, de débat autour d'un repas, et vous invitez largement?
Non, ça, on n'a pas encore imaginé.
Eh bien, écoutez, si un jour vous le faites, Agora Côte d'Azur sera ravi d'y participer et de vous servir de relais, parce que vous êtes une association particulièrement dynamique. Passion d'auteur, d'ailleurs, dit tout. Alors, bonne chance et puis à très bientôt.
Je vous remercie. À très bientôt.
Voilà, chers auditeurs, ne quittez pas l'antenne. Nous allons nous retrouver après les informations. Bien entendu, tous les sites et toutes les références bibliographiques, vous les aurez dans la note de synthèse qui accompagnera l'émission. Quitter Sanary-sur-Mer, écoutons cette citation d'Aldous Huxley qui a écrit Le meilleur des mondes à Sanary-sur-Mer, livre qui a été publié en 1932. Il écrit ceci: pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s'y prendre de manière violente. Les méthodes de guerre, comme celle d'Hitler, sont dépassées. Il suffit de créer un conditionnement collectif si puissant que l'idée même de révolte ne viendra même plus à l'esprit des hommes. L'idée serait de formater les individus dès leur naissance
en limitant leur aptitude biologique innée. Et il poursuit « Ensuite, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de façon drastique l'éducation pour la ramener à une formation d'insertion professionnelle. On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains comme tranquillisant social. L'homme de masse ainsi produit doit être traité pour ce qu'il est, un veau, et il doit être surveillé comme l'être dans un troupeau. Et enfin, il dit que pour les individus subvertifs, il suffit de leur proposer de l'argent et du pouvoir. » Nous allons poursuivre notre voyage, cette fois à la frontière italienne, Saorge, un petit village absolument extraordinaire. Je vous invite à le découvrir si vous ne le connaissez pas. Il est français depuis le référendum de 1860, sur 605 votants, 605 oui. Saorge a environ 450 habitants, mais Saorge a surtout le couvent des franciscains qui est devenu une résidence, non seulement pour les écrivains, mais aussi pour, j'allais dire, ceux qui font des scénarios, les traducteurs, les compositeurs de musique. Ce monastère, centre d'écrivains, reçoit environ 60 personnes par an, et c'est Estelle qui va nous en parler. Bonjour Estelle, et merci d'être parmi nous.
Bonjour, merci à vous de me recevoir.
Alors écoutez, vous êtes responsable de cette résidence de Saorge, comment dit-on exactement ?
Résidence d'écriture du monastère de Saorge.
Voilà, c'est le titre exact et officiel.
Oui, tout à fait. Il est géré par le Centre des Monuments Nationaux.
D'accord. Alors, je crois que vous êtes un centre propriété d'État depuis 1967, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Le monastère est un ancien couvent franciscain fondé au XVIIe siècle et il a été cédé par la commune à l'État et qu'il l'entretient aujourd'hui et qu'il ouvre au public pour des visites et qui a également réinvesti le premier étage des anciennes cellules des franciscains pour en faire des espaces réservés à des écrivains, des traducteurs, des compositeurs de musique, des scénaristes qui viennent travailler sur des projets d'écriture.
Alors je crois que c'est important, Estelle, de dire qu'il n'y a pas que des écrivains.
Oui, tout à fait. En fait, la retraite d'écriture est à prendre au sens large, puisque nous accueillons toutes les disciplines, que ce soit la littérature, mais également l'écriture scientifique, la traduction. Voilà, il n'y a pas de sélection quant au contenu des ouvrages qui sont écrits et sur lesquels les auteurs viennent travailler pendant leur résidence.
Combien de résidents par an ?
Alors une soixantaine environ, sachant que nous sommes ouverts de mars à octobre et que nous sommes limités à 6 résidents de façon simultanée pour des raisons d'espace et pour que chacun puisse travailler dans les meilleures conditions possibles.
Alors en dehors de cet accueil des résidents, et vous êtes l'une des, sinon la première résidence magnifique dans la région PACA, il y en a 19, mais selon moi c'est la plus belle et la plus remarquable, quelles sont vos autres activités ?
Alors nous sommes un monument ouvert au public, donc qui se visite quasiment dans son intégralité, puisque à la fois le cloître, l'église avec sa sacristie et son chœur baroque, le réfectoire des anciens franciscains et le jardin avec une partie en potager, tout cela fait partie du circuit de visite accessible aux visiteurs. Autrement, nous organisons aussi de nombreuses manifestations culturelles, donc ça peut aller de concerts de musique classique ou de musique traditionnelle ou même de jazz, à des spectacles également de théâtre, des spectacles pour enfants. Voilà, nous essayons d'avoir une programmation assez large pour toucher tous les publics et nous participons bien entendu aux manifestations nationales du ministère de la Culture comme les Journées du Patrimoine ou comme Monuments Jeux d'Enfants qu'organise le Centre des Monuments Nationaux.
Alors, pour être informé en permanence, vous avez un site, Estelle. Quel est ce site ?
Oui, alors le site internet, c'est www.saorge-monuments, au pluriel, nationaux.fr.
Très bien. Alors, je crois que l'administrateur civil est...
Bernard Lemagoireau. Oui,
voilà.
C'est l'administrateur pour le Centre des Monuments Nationaux. Donc, il n'est pas en résidence fixe à Saorge, puisque son bureau se trouve à Fréjus. Il gère également le club de la cathédrale de Fréjus, l'abbaye du Thoronnet dans le Var, et le trophée d'Auguste à la Turbie.
Et je crois que bientôt, il va avoir un certain fort à s'occuper.
Oui, il a été également chargé d'une mission de préparer l'ouverture du fort de Brégançon, donc ancienne résidence présidentielle, qui sera ouverte au public à partir du mois de juin.
Alors dites-moi, Estelle, vous devez être informée, entre ces différents lieux dont Bernard maintenant est responsable, y a-t-il des projets d'activité en réseau complémentaires ou autres ?
Oui, tout à fait. En fait, notre idée en travaillant ensemble sur 4 monuments, c'est de mutualiser les expériences culturelles et de faire en sorte que ce qui fonctionne bien dans un monument puisse être proposé dans un autre et ainsi toucher d'autres publics. Puisque voilà, on a un éventail assez large de types de monuments et aussi d'intervenants artistiques avec lesquels on travaille.
Alors Estelle, vous résidez à Saorge ou dans les environs ?
Moi je réside à côté de Saorge, à Breil-sur-Roya, puisque Saorge se trouve dans la vallée de la Roya, qui est une vallée moitié italienne, moitié française, aux portes du parc du Mercantour.
Si des auditeurs veulent se rendre à Saorge, qui est un village magnifique, et s'ils veulent passer un week-end ou plusieurs jours, y a-t-il des lieux d'accueil, des hôtels, des résidences ?
Oui, bien sûr, la vallée de la Roya est assez touristique. On y trouve des hébergements qui vont du camping jusqu'à des hôtels plus confortables. Il suffit de s'adresser pour ça dans les offices de tourisme de la vallée de la Roya.
Très bien. Vous avez des projets pour les années à venir ?
Alors, pour la résidence, en fait, les projets, c'est de continuer à accueillir le plus grand nombre possible d'écrivains de tous horizons, essayer peut-être de s'ouvrir un peu plus vers la littérature étrangère. Et puis, nous maintenons un dispositif qui a été établi avec la DRAC PACA de subvention à un auteur qui vient dans 3 mois en résidence au monastère et qui consacre un tiers de son temps, c'est-à-dire un mois quasi plein, à des interventions avec du public. Donc ces interventions, elles concernent du public scolaire. Hein, l'auteur se rend dans les collèges, dans les écoles de la région. Ça concerne aussi un public éloigné de la culture, comme les personnes en maison de retraite ou les personnes en hôpital, voire en service psychiatrique. Donc voilà, le but c'est de faire profiter au maximum les publics qui ont des difficultés d'accès à la culture, leur faire rencontrer nos écrivains et leur faire partager notre goût pour les littératures, les écritures en tout genre.
Estelle, quand vous dites la région, c'est quoi ? C'est la région PACA ? C'est la région plus précise là où vous êtes ? C'est quoi ?
Alors actuellement, c'est plus la région du bassin mentonnais, on va dire,
oui.
C'est-à-dire l'extrême est des Alpes-Maritimes, puisqu'il est vrai que les écrivains qui viennent chez nous font déjà la démarche d'aller dans un endroit assez reculé et qu'il est assez difficile ensuite de les faire sillonner toute la région depuis Saorge. Ceci dit, s'ils le souhaitent, s'ils sont volontaires, nous leur proposons bien entendu des rencontres dans un territoire qui peut aller jusque dans le Var.
Merci beaucoup de ces précisions, Estelle. Et rappelez-nous pour finir à nouveau les références du site.
Oui, donc c'est le site internet du Centre des Monuments Nationaux et la page de Saorge, www.saorge-monuments-nationaux.fr.
Merci beaucoup, Estelle, et à bientôt.
Je vous en prie, merci à vous. Au revoir.
J'ajouterai seulement au commentaire d'Estelle que de même que les franciscains aidaient la population pour les moissons et bien d'autres travaux,
les résidents de ce centre de Saorge présentent leurs travaux aux écoles, aux résidences de seniors, aux hôpitaux, etc. Sans tarder, nous allons mettre le cap sur Cabris, village de 1500 habitants, proche de Grasse, qui a un passé prestigieux, sur lequel nous allons pas pouvoir beaucoup nous étendre, mais André Gide, sa fille, Albert Camus, Roger Martin Dugard, Sartre, Simone de Beauvoir et bien d'autres sont passés dans ce village. Alors celui qui va nous servir de témoin sur la place de village, c'est Christian que nous accueillons. Pour retrouver l'esprit de Cabris, la belle endormie, nous sommes allés sur la place du village, la place au Puy, principale place de ce village. Là, régulièrement, le matin, Christian, dessinateur humoriste et sculpteur, ce qui est beaucoup moins connu, s'installe. Il est connu du village, bien sûr, mais il est connu aussi dans la région, il est connu dans le monde entier, on en reviendra tout à l'heure. Vous aimez venir sur cette place pour y lire, pour y travailler, pour y rencontrer des amis ?
Mais un peu tout ça, c'était vraiment une annexe de mon atelier. Je viens, alors que je n'aime pas tellement dessiner en public, c'est vrai que c'est ici que je trouve mon inspiration. Et non pas parce que, pour ce que je vois, pour les gens, non pas parce que je pique des idées, mais simplement ici, paisiblement, je vais lire la presse, le journal, me tenir au courant des nouvelles et chercher mes idées que je vais croquer très rapidement sur un cahier de brouillon, une sorte de sténo à ma façon. Et ensuite, je vais reprendre chez moi les idées qui me plaisent et abandonner celles qui me plaisent moins. Mais c'est vrai qu'ici, alors les gens savent, ils me laissent tranquille, ils savent que je travaille, ils viennent pas m'embêter. Et en même temps, je dis bonjour à tous les amis qui passent.
Cette place, finalement, est un lieu d'accouchement.
Oui, c'est ça. Bon, c'est un endroit fantastique pour tous ceux qui connaissent Cabris. Ceux qui ne connaissent pas, je les invite à venir. C'est vrai que cette place est vraiment un endroit extraordinaire, un lieu de vie incroyable. C'est vraiment le cœur du village.
Tout à fait. Alors sur cette place, justement, près de cette place, sur le chemin Saint-Jean, juste à côté, des écrivains, des artistes ont foulé le sol. André Gide et sa fille, Roger Martin Dugard, Sartre, Malraux, Marcus, Georges Feldman, qu'on oublie trop, Marie de Saint-Exupéry et tant d'autres. Il vous arrive d'y penser ?
J'étais pas très lecteur, enfant. Mais je sais plus trop quel âge j'avais, 10, 11 ans peut-être. Et j'avais lu Le Petit Prince et ce livre m'avait vraiment ébloui. Et je l'ai lu et relu et j'adorais ce livre. Et donc, lorsque je suis venu ici, lorsque j'ai commencé à plus fréquenter le village, puisque mes grands-parents vivaient ici, et que j'ai su que Saint-Ex y venait régulièrement pour voir sa mère, et ben vraiment, ça, j'étais emballé et puis j'avais toujours l'impression qu'au coin d'une rue pouvait débouler Le Petit Prince. Ce côté magique quand même, on ressent cette trace.
C'est évident, c'est quelque chose, je crois, de très fort. Et nous sommes installés chez Nicolas, qui est l'un des bars de la place du village et qui est un lieu absolument magique. Si vous ne connaissez pas, venez, prenez un verre, discutez. Et vous avez même le versant du Petit Pré et le versant de la place. Ce bar a une double face, si je peux dire, hein, c'est bien ça.
Oui, tout à fait, oui, c'est ça. Il y a vraiment le côté tranquille, surtout après, quand il y a les beaux jours, on est bien d'autre côté aussi à l'ombre et cet endroit. Nicolas, vous parlez de Nicolas, on a le même âge et lorsque j'étais ado, on était vraiment tout un paquet de jeunes à être des années 60 et même de 1960 puisque je suis de 1960 et on avait tous le même âge et finalement, on a grandi ensemble. Aujourd'hui, on vieillit ensemble.
C'est magnifique. Et alors vous, Christian, vous avez plein de projets, vous partez bientôt au Japon.
Oui, comme chaque année depuis 20 ans, j'y serai du 1er mai jusqu'au 27 mai pour 4 expositions. Une première à Nara, ancienne capitale du Japon, à côté d'Osaka. Et puis ensuite, je serai à Tokyo pour 3 autres expositions, dont une qui me tient à cœur à la Soke Academy of Fine Art and Design de Tokyo, où je vais donner aussi, je vais animer des stages et des cours. Cette expo va durer assez longtemps et puis elle est assez importante puisque il va y avoir une soixantaine de dessins.
Alors vous avez fait une exposition au musée Pénet à Antibes en 2015. Parlez-nous de cette exposition.
Oui, j'ai déjà exposé au musée. J'ai d'ailleurs eu le bonheur de rencontrer Raymond Pénet avant son décès au musée. J'ai participé à des expositions avec d'autres dessinateurs. Mais là, pour la première fois, j'y serai seul. Je vais y exposer seul. J'aurai la totalité du musée pour moi. C'est vraiment formidable. Et cette expo va commencer donc le 14 février, jour de la Saint-Valentin pour le musée Pénet. Voilà. voilà, qui tombe bien, et va se poursuivre pendant tout l'été 2015 jusqu'au mois de septembre. Je vais y mettre un peu de tout, des dessins, d'humour, noir et blanc, couleurs, les dessins que je fais pour le Japon, et puis il y aura aussi quelques sculptures.
Vous continuez beaucoup dans la sculpture maintenant.
Mais j'aime ça, j'aime beaucoup ça. Bon, ça prend du temps, alors j'ai pas toujours le temps de faire ce que je veux, mais j'aime beaucoup ça. J'en ai dans une galerie à Saint-Paul-de-Vence, dans une autre galerie à Nice. J'aimerais en faire plus. Peut-être que l'année prochaine, je pourrais dégager un peu plus de temps pour en faire différentes. Et maintenant, les premières étaient tout en résine, maintenant j'en fais également en métal.
Alors, Christian, à quand le premier livre ?
Oui, à la fois, c'est une question que vous m'avez souvent posée. C'est drôle hein, que je sois autant réticent. Je sais pourquoi, au fond de moi. C'est parce que j'ai pas envie de courir la France et les salons du livre pour la promotion du bouquin, si tant est qu'un éditeur soit intéressé. Alors, j'ai participé à pas mal de bouquins. J'en ai fait 3 seuls également. Mais bon, là, maintenant, ça commence quand même à me... Ça commence quand même un peu à me titiller. J'aimerais bien avoir un beau recueil de mes dessins, particulièrement de ce que je fais au Japon, parce que ce sont des dessins sans légende et qui du coup sont internationaux. Il faut que je m'en occupe. Il faut que je m'en occupe. Je me sens de le faire. Jusqu'à présent, je n'avais pas cette envie. Je commence à l'avoir. Je suis pas pressé dans la vie. J'ai toujours l'impression que je vais vivre 150 ans ou 200 ans. Et je me sens aujourd'hui, alors que j'ai 30 ans de carrière, toujours un petit jeune débutant.
Alors écoutez, chers auditeurs, si vous passez à Cabris, si vous trouvez sur la place un artiste à la crinière grise, tout à fait royal,
tout à fait plein de panache, regardez-le, il est peut-être en train de dessiner quelque chose d'inédit, et si un jour, dans quelques temps, disons quelques mois, un an, 2 ans, pas plus, vous passez à Cabris, sans doute vous trouverez chez Bernard, juste à côté, son livre, et il y aura certainement une trace du Petit Prince. J'imagine pas le contraire.
Il y aura sans doute un clin d'œil. Oui, je me suis déjà amusé à le dessiner, et j'ai d'ailleurs, par amitié, dessiné le panneau du restaurant Le Petit Prince de Cabris, d'ailleurs, qu'on trouve à l'entrée du village.
Merci beaucoup, Christian, et à très bientôt.
Merci à vous, et à très bientôt également.
Cabris n'a pas de libraire, mais il y a une boutique remarquable dirigée par Alain Bernard. Vous pouvez lui commander vos livres. Vous les avez en 8 jours, 04 93 60 51 48. L'histoire de la librairie La Galerie, nous vous la ferons découvrir à la fin juin dans l'émission Renaissance. Pour nous, rendez-vous mardi avec un auteur, Hervé Cheuséville, qui vient de Corse pour nous présenter son dernier livre, Au chemin, au fil des chemins. Et il nous parlera du monde et de la politique et des politiques. Voilà, chers auditeurs, bonsoir, et écoutons pour terminer, si nous pouvons, cette musique médiévale.